On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Ok, bon bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin, puisque bah on se retrouve comme d'habitude le jeudi. Je vais faire la mise au point parce que, hop, on est en mise au point auto, ça ne marche pas, hop, si je mets ma main là, non, et bah écoutez, la mise au point ne marche pas, donc comme ça, c'est une bonne chose, il neige, ah il neige chez toi, salut Abdelkrim. J'espère que ça va bien. Salut Doomsday également et salut aux gens du chat. Je vois que vous êtes un peu plus de 200 et vous êtes en partie silencieux. Et ben je vous souhaite le bonjour à vous aussi. Et ben écoutez, comme tous les matins aujourd'hui, on va parler d'Actu Tech. Nancy dans le 54. Et ben écoute, à Paris, il fait moche. Rien de très surprenant, tu vas me dire, mais voilà. J'espère que vous m'entendez bien, que le volume est pas trop fort. A priori, ça a l'air d'être bon. On a une nouvelle table de mixage, donc je la prends un petit peu, enfin je l'appréhende et tout ça. Salut Sultan Tour, salut Mwendingo, salut Roromix, et voilà. Donc ouais, non, le son a priori a l'air bon, la musique a l'air d'être en dessous, mais pas mal. On va tester le partage d'écran et ça marche. Incroyable! Incroyable, c'est une matinée où une fois que tout fonctionne, et bah tout fonctionne. Ce qui change un petit peu, c'est pas plus mal. Donc aujourd'hui, bah comme d'habitude, on va parler un petit peu d'Actu Tech jusqu'à autour de 11h tous ensemble. Salut Café Miroir, tous ensemble. Et puis voilà, si vous avez des sujets particuliers dont vous aimeriez qu'on parle, et bah je suis là pour vous. Si jamais il y a des sujets dont vous vous foutez, et bah dites-le moi, mais il y a peut-être en vrai d'autres personnes que ça intéressera. Et voilà, aujourd'hui on va parler de quoi ? Pas de problème technique, Greg en jalousie. Ah si, je n'ai rien envie à Greg du côté des problèmes techniques ce matin. Je trouvais pas les clés de la régie. On a une nouvelle table de mixage, du coup je savais pas comment l'allumer parce qu'hier il y avait un live Mademoiselle et comme vous le savez, on partage les bureaux. Chez Humanoid, il y a trois médias, il y a Frandroid, Numérama et Mademoiselle. Et en fait, bah, il y avait un live Mademoiselle hier et donc du coup elles ont dû modifier un petit peu des réglages sur la table de mixage. J'étais un peu perdu. Voilà. Donc oui, non, des problèmes, t'inquiète pas, j'en ai. Je me plaignais encore il y a 5 minutes, donc tout va bien. On va parler du S23 Ultra, évidemment, Abdelkrim, qui est chaud patate par rapport à la Galaxy Unpack de mercredi prochain. Eh bien, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est chaud patate, notamment les gens qui veulent voir les prix. Parce que c'est à peu près la seule inconnue qui reste hein, sur les S23. On va en parler un petit peu des S23, je vérifie. Oui, c'est bon, on a une news Galaxy S23. De toute façon, c'est la période. Donc voilà. Finalement, il y a eu un coup de stress du matin, autant pour moi. Oui, mais tous les matins, tous les lives hein, chez moi. Enfin, sauf quand je l'ai fait chez moi. Quand je l'ai fait au bureau, je sais qu'il y a au moins un truc qui va pas bien se passer. Quand c'est chez moi, c'est tranquille. Mais en même temps, c'est plus propre et avec du meilleur matos quand c'est fait au bureau. Donc encore faut-il réussir à allumer le matos. Mais c'est un autre sujet. Donc on va parler de ça, on va parler du Xbox Game Pass, on va parler de connectique de barres de son. On vous a pendu un beau dossier avec mon pigiste Tristan, spécialiste de l'audio et des barres de son. Donc là c'est ce que vous voyez ici. On va parler un petit peu de Motorola qui a lancé des nouveaux téléphones. Voilà, Microsoft qui est un peu en crise. On avait déjà vu les licenciements ces derniers jours. Là, on a les résultats financiers. C'est un peu plus sexy que résultats financiers parce qu'on a des choses à en tirer. Mais donc ne partez pas. Mais voilà, on va parler d'OpenCore qui est un logiciel qui va permettre de. Enfin, je vais pas vous spoiler. Un logiciel pour macOS. Voilà. Et de Garmin. Parce que j'ai vu Greg hier, il était gentil, il a fait ma news, mais comme il a fait un live de 45 minutes, c'était un peu juste pour traiter la news en entier, et j'en avais une deuxième sur Garmin, donc je vous ai gardé ça bien au chaud, et bah spoiler, moi j'ai une Garmin, donc on va pouvoir en parler. Bonjour à tous, salut Lord Gibus, j'espère que tu vas bien en ce jeudi matin. Eh regardez, je suis un geek, c'est vraiment une tasse de gros nerd, Freemur va. Objectif 5, semi-marathon dans un peu plus d'un mois. Donc il faut. Ça souffle fort par chez moi. Bah ici ça va. Alors j'ai encore les travaux au-dessus, mais au niveau du vent ça va encore. Au niveau du vent ça va encore. Ah que coucou Mwendingo. Oui, j'ai déjà dit bonjour à Mwendingo. Oui, évidemment. Bon bah écoutez, on va attaquer. On va attaquer par quoi ? Par le Xbox Game Pass, c'est news de ce matin. Donc les nouveautés, les nouvelles sorties du Xbox Game Pass. Microsoft ajoute de belles surprises à son service. En marge de son premier événement développeur direct, Microsoft a dévoilé la liste des prochains ajouts du Xbox Game Pass. Comme quoi, tout peut arriver. Souvent critiqué pour ses couacs de communication, Microsoft a pour la première fois, en dehors d'un grand moment comme le 3, plutôt réussi à contenter les fans avec son premier développeur direct. Ce nouveau format de présentation a suggéré les attentes en proposant pendant 40 minutes de découvrir les prochains jeux de Microsoft apparaître dans les prochains mois. Non mais le chat, aucune annonce côté tarification Game Pass, pas à ma connaissance. Mais après on va peut-être le voir après. Les développeurs qui n'ont pas été licenciés ont pu présenter les prochains titres de Xbox Game Studio. Putain, c'est Cassim qui a fait la news. J'aime bien ça, c'est bien mon Cassim de faire une petite news divertissement comme ça. À quoi vous allez jouer? Et au fait, Microsoft, ils ont licencié du monde, on vous le rappelle. Donc, les développeurs qui n'ont pas été licenciés ont pu présenter les prochains titres de Xbox Game Studio, Redfall, Forza Motorsport, Elder Scrolls Online Necrom et Minecraft Legends. En attendant leur sortie respective, la firme avait une surprise dans sa poche. Voici les jeux apparaître dans les prochains jours dans l'Xbox Game Pass de Microsoft. Ify Rush sur Cloud, PC et Xbox Series. GoldenEye 007, Cloud et console. Est-ce que c'est un remaster ou est-ce que c'est... Non, ça va être l'original. Hein. Ça a l'air d'être l'original. RoboQuest sur console le 30 janvier. Age of Empires 2 Definitive Edition, Cloud et console le 31 janvier. Inculinati le 31 janvier sur Cloud, console et PC. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Air, Cloud, console et PC. Darkest Dungeon, Cloud, console et PC, Grid Legends, Cloud et Hot Wheels Unleashed, Cloud, console et PC. La star de cette sélection, c'est bien évidemment Ify Rush, que personne ne connaissait avant l'événement, et pour cause, il s'agit du nouveau jeu du studio Tango Gameworks, annoncé et lancé à la surprise générale. C'est qui Tango Gameworks? Ah bah oui, Tango Gameworks, mon studio japonais, Evil Within, Ghostwire Tokyo et Ify Rush. Contrairement aux précédentes productions du studio, The Evil Within, pas question ici d'un jeu d'horreur, mais bien au contraire d'un jeu de rythme dans une ambiance très festive et colorée. Alors, je sais pas si vous allez avoir la musique. Son PC, non, je suis à zéro, donc c'est bon. Est-ce qu'il y a du gameplay? Je sais pas si vous entendez le jeu. Bonjour Dark Vador. Pas mal le Hot Wheels aussi. Ouais, le Hot Wheels, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, tant que je félicitais Cassim pour son choix de petite pique à l'encontre de Microsoft, on voit un Cassim derrière moi. Alors là, on voit une autre vidéo, mais c'est un Cassim qui est derrière moi. Microsoft a aussi confirmé la liste des jeux qui ne seront plus disponibles dans le Game Pass à partir du 31 janvier, parce qu'évidemment, c'est comme les services de streaming de séries ou de films. On a Donut County, qui va supprimer. Takano Tatsujin, The Drum Master, pareil. Telling Lies, c'est... pas dire de bêtises. Oui, c'est Sam Barlow. Si vous avez le temps, Telling Lies, faites-le. Sam Barlow, c'est bien. C'est du jeu narratif textuel avec de la FMV, donc de la full motion vidéo, donc des acteurs qui sont filmés, et des jeux d'enquête. C'est vachement bien. En effet, ça bouge dans le jeu dynamique. Ouais. Et Worms WMD, évidemment, les Worms, il faut y jouer, c'est bien. Je dis ça parce que j'ai bientôt 35 ans. Nous vous recommandons vivement Donut County, qui peut se vivre en quelques heures seulement, de quoi terminer avant la date fatidique. C'est vrai que le risque après, c'est que les autres, vous les commenciez, mais vous les finissez pas. Telling Lies, je crois pas que ça soit très long. Les Sam Barlow, généralement, c'est moins d'une dizaine d'heures. Durée de jeu, durée de vie, Telling Lies. Ouais, c'est ça, c'est 4 heures sur la trame principale, 7 heures si vous faites les quêtes secondaires. Donc Telling Lies, ouais, je vous recommande. L'âge de Novak Djokovic, et j'ai le même talent au tennis que Novak. J'ai pas encore 35 ans, j'en ai 34. Et c'est eux qui a fait miroir, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Pas que Microsoft d'ailleurs, tous les GAFAM sauf Apple ont licencié plus de 10 000 employés minimum, oui. Oui, puisqu'on a eu... Enfin, Meta a licencié, Twitter a licencié, mais c'est dans un autre cadre. Microsoft a licencié, Google a licencié, Amazon a licencié. Oui, c'est ça, bah, il reste juste Apple. C'est le bordel dans Silicon Valley. Je pense que les salaires de développeurs vont bien baisser, tout bêtement, parce qu'en fait, s'il y a autant de développeurs sur le marché du travail, bah, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises de trouver celui qu'elles veulent. Et donc, elles auront moins besoin de les attirer avec des salaires mirobolants et des avantages et tout ça. C'est un peu la fin d'une ère, pour le coup. 34, presque le même âge que le fiston. Eh ben écoute, je peux t'appeler papa, Lord Jibus. J'ai l'âge de Federer, perso, plus simple à écrire. Federer, il a quoi, 38? Federer, Roger, 41. Ok. Ah, c'est bon, on n'a pas une audience de petits jeunes hein, sur Frandroid Live, sur la chaîne Twitch. C'est une majorité de devs qui sont partis. Alors oui, généralement, c'est des devs. De toute façon, quand c'est des entreprises comme ça, c'est essentiellement la grosse force de travail sur chez Microsoft, chez Meta, etc. C'est alors il y a des commerciaux, il y a des ce qu'on appelle des fonctions support, donc RH et tout, mais c'est essentiellement des développeurs qui font gros de l'activité. Ils le font parce qu'en fait, ils réorientent leur souvent, c'est, en fait, ils ont fait trop d'argent et trop grosse croissance en 2020 et 2021 pendant la pandémie. Et en fait, on va en parler maintenant. Hop, comme ça on va rester en plus sur Microsoft. Voilà. Ils ont fait trop d'argent pendant la pandémie, donc ils ont embauché en conséquence en pensant que ça allait perdurer. C'est le cas d'Amazon aussi, c'est le cas de Meta. Parce que pendant la pandémie, tout le monde achetait des PC, donc par exemple pour Windows, clairement c'était prolifique, pour pouvoir télétravailler, etc. Et sauf qu'en fait, Microsoft se disait, tiens, du coup on va continuer à développer sur Windows et sur les services et tout ça. Et en fait, non. Les gens, maintenant que le retour est plus ou moins à la normale, la croissance elle s'est transformée en décroissance, mais en récession. Et donc du coup ils perdent de l'argent, donc ils ont dû licencier. Quelqu'un a un Microsoft Surface ici, Geoffroy, tu recommandes? Je saurais pas te dire, Cassim les a testés, donc si tu fais hop micro, ça va dépendre lequel tu veux après, mais Microsoft Surface. Voilà, on n'a pas forcément testé les plus récents, mais voilà, Surface Pro 9 sous Intel, 8 sur 10. Surface Laptop 5, 7 sur 10. Donc voilà. Et je pense que celui-là, Surface Studio, on n'a pas fait. Surface Laptop 5, on n'a pas fait. Mais n'hésite pas à demander à Cassim, je sais pas quand il doit être en live la semaine prochaine. Donc n'hésite pas à lui demander à ce moment-là. Vieux, si j'avais commencé à bosser ma naissance, je ne serais toujours pas à la retraite du haut de mes 41 ans. On va pas parler de la réforme des retraites. Je suis calme ce matin. Là, ça va mieux. J'étais pas calme il y a une demi-heure, mais là, je suis calme. Ils cherchent une surface chère ou très chère? Oui, c'est un peu la question. C'est le problème, c'est que les surfaces sont pas données. 7 sur 10, c'est une bonne note sur Frontread. C'est un bon produit. C'est un produit qu'on peut recommander. Généralement, il y a des 8 sur 10, donc on les recommandera plus facilement. Mais c'est un produit qui a pas de gros défauts rédhibitoires, qui est pas extraordinaire vis-à-vis de la concurrence, mais qui vous te posera pas de problème. 8 sur 10, c'est un bon produit. On arrive sur les produits très bons, même. En fait, c'est aussi pour ça que l'an dernier, maintenant on va faire Microsoft Surface. Qu'est-ce qu'on a fait comme test récemment? On va aller dans le test, comme ça sera plus simple. En fait, mais depuis un an à peu près, on a des légendes. Attends, on a un 6, c'est trouvé un 8 et un 9. Comme ça, on voit un peu l'échelle. 6 sur 10, c'est un produit qui est correct, mais voilà, c'est un produit qui est pas incroyable. 5 sur 10, c'est moyen. 6 sur 10, c'est correct, mais il n'y a rien d'hyper enthousiasmant. 7 sur 10, c'est un bon produit. 8 sur 10, c'est un très bon produit. Et 9 sur 10, c'est un produit excellent. Salut Geoffroy, bon live. Merci Victor. J'espère que ça va bien là-haut. Parler ne fait pas cuire le riz. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, mais je suis d'accord, Beacon. Enfin, voilà, factuellement, on est d'accord. Salut Batix, j'espère que ça va bien. Donc voilà, 7 sur 10, c'est un bon produit. C'est pas forcément celui qu'on te recommandera le plus chaudement, mais c'est un produit avec lequel tu devrais pas être déçu. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc Microsoft qui traverse une tempête, Windows s'effondre et l'Union Européenne en rajoute une couche. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté de Microsoft. Le groupe a dévoilé des résultats en berne sur la fin de l'année 2022 et la menace d'un procès par l'Union Européenne se concrétise. Les temps sont difficiles pour Microsoft. Bien sûr, la firme est encore l'une des championnes du monde avec Apple, Alphabet, Amazon et les autres géants. Mais les derniers résultats traduisent très concrètement ce que l'on sentait venir du contexte économique. Tiens, on va faire un petit truc d'ailleurs. Google Stock, on va aller sur récapitulatif des marchés. Est-ce qu'on peut en faire... Voilà, on va... Ah, faut forcément créer... On va voir Google, comment ils sont en ce moment, Alphabet. Depuis un mois, ça va. Ça aurait pu être pire. Depuis 5 jours, évidemment, ça s'est cassé la gueule. Mais je pense que souvent, le fait de licencier, en fait, ça les aide. Par contre, si on prend, sur 5 ans, ils ont bien baissé. Le pic, évidemment, ça a été post-pandémie, novembre 2021. Pic de l'action, hein, donc ça vaut que pour les gens qui veulent investir. Si on prend Meta sur 5 ans, pareil, le pic c'est septembre 2021. Si on prend Microsoft sur 5 ans, la valeur de l'action, ça va, en vrai ça va. Ils sont revenus à leur valeur de début 2021. Et Microsoft, le pic c'est fin 2021, ouais c'est pareil. Apple qui pour le coup, comme je sais plus qui le rappelait, mais Apple, quelqu'un le rappelait, effectivement Apple pour le coup, c'est les seuls qui n'ont pas licencié, et en même temps ils ont moins besoin de licencier, parce que certes ils s'en prennent un peu, ils sont passés grosso modo de $176 l'action à 137, mais c'est bien moindre que les autres. Hein. Ouais, Twitter, je crois qu'ils sont plus cotés de toute façon. Non, c'est ça, ils sont plus cotés, donc on peut pas voir. On avait dit qui ? Amazon. Amazon, ouais, le point BE. Bah Amazon, pareil. Amazon, ils ont piqué comme ça pendant la pandémie. C'est-à-dire que voilà. Là, on voit les lockdowns. C'est quoi ? C'est mars. À partir de mars, ils étaient bas. 13 mars. Ils ont explosé, grosso modo, jusqu'à août. Ensuite, ça s'est stabilisé. Et depuis la fin de l'année dernière, hop, ça redescend. Enfin, depuis mars dernier. Salut camarade, salut Sacha. Tesla pour pleurer. Tesla, ils sont encore cotés. Tesla sur 5 ans. Ah oui, ça c'est... Ok. Ils sont passés de 407$ l'action à 144. Faut plus diviser par deux. En même temps, tout le monde disait que... Enfin... Les gens qui s'intéressent un peu à la finance, ce qui n'est pas particulièrement mon cas, mais expliquer que Tesla, c'était un peu une bulle parce que Tesla était davantage coté que des entreprises historiques, typiquement Mercedes, BMW, Volkswagen. Voilà. Tu peux faire ma boîte, ton tien. Est-ce que ta boîte est cotée en bourse? Parce que si elle n'est pas cotée, je ne pourrais pas. Elon vient d'annoncer qu'il ne veut plus payer la location des locaux de Twitter. Oui, non, mais Elon Musk. J'avais entendu dire que licencier quand on a un peu de surplus d'employés permet artificiellement de monter le pourcentage de rentabilité des équipes car le ratio chiffre d'affaires employés change. Exactement. Très bon pour vendre un bon pourcentage de rentabilité aux futurs investisseurs qu'on pense. Oui, non, mais clairement. Sauf que c'est pas une démarche de croissance, à mon sens. Enfin, après, je suis pas particulièrement pour le licenciement des gens. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est pas une démarche de croissance. Si une entreprise veut croître, il faut qu'elle ait une force de travail qui soit plus importante. Donc de fait, avoir plus d'employés, ça te coûte plus cher sur le court terme, puisque ton chiffre d'affaires, enfin, va pas augmenter, mais par contre tes dépenses vont augmenter. Mais en revanche, bah sur du long terme, c'est si les employés sont évidemment de bonne qualité, etc. C'est ce qui va permettre à la boîte de croître. Chez Humanoid, pour le coup, je suis arrivé dans la boîte, je pense qu'on était peut-être une vingtaine en 2018. Aujourd'hui, on est quasiment une centaine en comptant les équipes de Mademoiselle. Je me demande, non, on n'a pas encore dépassé la centaine, mais on est sur 3 étages, etc. Alors qu'avant, on était dans une espèce de 6000 appartements parisiens. Donc non, moi, je suis pour qu'il y ait plus de gens. En plus, c'est plus marrant, quoi. Plus on est de fous, plus on rit. Largement surcoté, en effet, et le fait de baisser les prix, les riches qui espéraient revendre sans perdre vont même gagner de l'argent, voire même gagner de l'argent pleure. Oui, sur les ventes de Tesla. Ah non, sur les ventes d'actions. Oui, bah oui. Bah, c'est le même principe que la crypto, hein, c'est que c'était une bulle spéculative. La surface Go3 me fait de l'œil en effet, me fait de l'effet, ok. Passons à la suite. On est bon pour Tesla. Pour Microsoft, on est bon pour Tesla. On ne traitait pas du tout Tesla, hein, mais... Chez Microsoft, donc les temps sont difficiles. Les derniers résultats traduisent très concrètement ce que l'on sentait venir du contexte économique. Dans la nuit du 24 au 25 janvier, Microsoft a dévoilé les résultats de son deuxième trimestre de l'exercice financier. Il est très important puisque c'est celui qui couvre les fêtes de fin d'année d'octobre à décembre 2022. Je vous rappelle que quand on parle de trimestre financier, ça commence en mars, puisque l'année financière, je crois, se clôt en mars, quelque chose comme ça. Alors s'il y a des experts comptables, ils vont peut-être me reprendre. Mais il me semble que l'exercice financier se clôt en mars, donc grosso modo le premier trimestre c'est avril, mai, juin, deuxième trimestre c'est juillet, août, septembre, ensuite octobre, novembre, décembre sur le... Ou alors ça se clôt en juin, et donc c'est juillet, août, septembre, premier trimestre, octobre, novembre, décembre, deuxième trimestre. Donc effectivement c'est le trimestre le plus important, nous on le voit sur que ça soit les achats, puisqu'on a des liens d'affiliation, on peut suivre les achats des gens et toucher un petit peu d'argent là-dessus. Au niveau des achats, au niveau des sorties de produits, il n'y a pas de secret. Hein. Si les constructeurs lancent des produits en septembre, évidemment, c'est pour que les gens les achètent sur les fêtes de fin d'année. Donc les fêtes de fin d'année, c'est l'exercice, enfin le trimestre le plus important. On peut parler du Surface Solo, je pense qu'on pourra en parler après. Je suis pas hyper au point là-dessus. Mais on regardera ça après l'actu si tu veux, Batix. Sur cette période très propice aux ventes, Microsoft annonce une chute de 13% des résultats de sa branche Xbox en raison d'une baisse des ventes des consoles et des jeux et la baisse de prix de certains produits pendant les promotions de fin d'année. Xbox Series S en tête. Il faut dire que Microsoft n'a pas été en capacité de lancer sur sa plateforme des titres aussi importants que ses concurrents directs. Là où Nintendo et Sony raflaient tout, les ventes Pokémon et God of War, les jeux Xbox devaient se contenter d'un Pentiment forcément moins générateur de ventes. Le jeu vidéo n'est pas la seule branche à avoir passé de mauvais mois, alors je vous la fais en rapide. Les ventes de Windows sont en chute de 39%, pareil pour les ventes de Surface, alors que c'était le trimestre de lancement des Surface Laptop 5, Surface Pro 9 et Surface Studio 2+. Deux divisions donc gaming et Surface et Windows qui ont été les plus touchés par les 10 000 licenciements annoncés par Microsoft quelques jours auparavant, comme pour mieux préparer les actionnaires. Grâce à la presse, on sait depuis que l'équipe HoloLens, celle en charge de la réalité mixte chez Microsoft, et les studios Bethesda et 343 Industries ont été très touchés. Ce n'est pas tout, Microsoft prévient dès maintenant que les résultats du prochain trimestre seront dans le même ton. Par la voix de Amy Hood, en charge des finances de Microsoft, Windows devrait continuer de chuter de l'ordre de 30% et le jeu vidéo tomberait d'un peu moins de 10% sur le trimestre se terminant fin mars. Union européenne ensuite. Le média Politico rapporte en effet que l'Union européenne s'apprêterait à annoncer une enquête à l'encontre de Microsoft sur sa politique et la question d'un abus de position dominante dans le domaine du service aux entreprises. Il s'agit en fait d'un premier aboutissement pour la plainte déposée par Slack en 2020 visant la politique de Microsoft d'intégrer sa solution Teams avec les services Microsoft Office 365. Slack refuse la... accuse la firme d'avoir utilisé la popularité de Microsoft Office pour gagner rapidement des parts de marché de façon déloyale vis-à-vis de Slack. En 2022, OVH Cloud a également déposé le même type de plainte sur le sujet. Voilà, impressionnante ton analyse ultra rapide des cours de bourse. Bah non, mais en fait, ça rien d'impressionnant. Ça descend, ça monte, hein. C'est ma seule analyse. Mais après, honnêtement, j'avais déjà jeté un œil un peu il y a quelques mois pour voir justement à quel point ça allait pas parce que je l'avais vu quand ça avait commencé à licencier chez les entreprises. Et c'est tout bête, mais et c'est malheureux, mais en fait, les gens qui investissent, enfin le marché financier, aiment les licenciements. Donc généralement, quand tu as des licenciements, ça permet de stabiliser les courbes et les chutes du cours des actions. Voilà, voilà. Pour ceux qui recherchent une Xbox Series S à prix réduit, Bouygues Telecom propose la fibre avec exactement, je crois qu'on l'a faite, B-Box, Xbox, Frandroid. Je pense qu'on a fait une actu, voilà. B-Box Gaming, Bouygues lance une offre fibre, Xbox et Game Pass. Ça devait finir par arriver, Microsoft s'associe avec un opérateur pour pousser son offre de jeux vidéo tout inclus avec le Xbox Cloud Gaming. Bouygues Telecom est le premier à le faire avec sa nouvelle offre B-Box Gaming. Après la B-Box, vous aurez la Xbox. C'est une offre qui semble évidente, que l'on peut être très étonné, machin. Deux offres, B-Box Must Gaming et B-Box Ultimate Gaming. Ils peuvent pas l'écrire normalement. Les vrais gamers, ils écrivent avec des fautes d'orthographe et des Y et des K partout. Et des Z. Dans les deux cas, il s'agit d'associer un forfait fibre de l'opérateur avec un modem Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E et avec l'offre de Microsoft, c'est-à-dire une Xbox Series S et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Pour rappel, c'est ce dernier qui permet d'accéder au service Xbox Cloud Gaming de la firme. Bouygues Telecom n'annonce pas ici l'intégration du service de Cloud Gaming à sa Box TV. Une petite occasion manquée qui sera peut-être corrigée plus tard. C'est vrai que ça ce serait cool parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, la B-Box TV, c'est Android. Ou je dis peut-être une grosse bêtise. Je crois que je dis une grosse bêtise. On peut être libéral et anticapitaliste, vouloir de la concurrence, mais pas de monopole. C'est le seul cas que je connais, les gens de droite et de gauche en PLS. J'ai pas dit que j'étais libéral ou anticapitaliste, hein. Après, je me cache pas particulièrement de mes opinions politiques, mais c'est pas la question. Est-ce qu'on peut être libéral et anticapitaliste? On peut vouloir de la concurrence, mais pas de monopole. Oui, bah après, c'est la position de la FTC aux États-Unis. De plus en plus. Ils sont pour la concurrence, mais contre le monopole. Après, est-ce que c'est anticapitaliste? J'en doute, si tu veux la concurrence à tout prix. On n'est pas là pour parler politique, on pourra en parler si un jour je lance ma chaîne Twitch à moi, perso, qui existe d'ailleurs, mais où j'ai pas livé depuis facilement 4 ans. Oui, c'est ça c'est le capitalisme, tout simplement. On est d'accord, papillon. Bref, est-ce que c'est une offre intéressante? Le prix du forfait proposé avec ces deux offres est de 41,99€ par mois pour la version Must ou 50,99€ par mois pour la version Ultime. Dans les deux cas, il s'agit du prix hors promotion des deux forfaits sans la Xbox. Ces deux forfaits sont proposés respectivement à 24,99€ ou 30,99€ la première année sur le site de Bouygues Telecom sur 2 ans, et en renonçant à cette promotion, on va donc payer 204€ de plus pour la première offre et 240€ de plus pour la seconde. Or, l'offre de Microsoft intègre pour au moins 200€ de console, la Xbox Series S peut se trouver à ce genre de tarif pendant la période de bon plan, ce qui peut justifier l'offre gaming de Bouygues Telecom. Si vous y rajoutez les 40 à 311€ de Xbox Game Pass inclus, vous vous retrouvez avec une offre très attractive de la part de l'opérateur. Donc c'est une bonne offre, voilà, c'est plutôt une bonne idée. Non mais Bouygues fait une offre internationale et est une boîte internationale, d'où le nom E-Anon en vrai Ultimate. Oui voilà, ça aurait été Ultimate dans ce cas. 41,99€ pour 1 gigabit de débit descendant, bonne affaire par rapport à ce que propose Free. Je saurais pas te dire par rapport à... Pour le coup, moi, je suis vraiment un pigeon sur les offres internet. Je suis chez Orange parce que c'est cher, mais ça marche. Je pense que ce qui est intéressant, LSG Snake, à lire, c'est ça. C'est une offre intéressante. C'était une boutade sans accusation, j'aurais dû choisir d'autres smileys pour démontrer le second degré. D'accord, tu n'as pas été plus de droite que de gauche dans tes propos. Parfait, j'aurais bien aimé être l'un plus que l'autre, mais ok. allons-y, on va passer à la connectique. Je vous ai dit qu'on vous avait pondu un beau dossier sur les connectiques. En gros, contexte depuis quasiment un an avec Tristan, enfin pas avec Tristan d'ailleurs puisque c'est lui qui les fait toutes, Tristan teste des barres de son. C'est-à-dire que, on va aller regarder ça, si on regarde voir plus, barre de son. Il y a un an, on avait testé en barre de son la Sonos Beam, Beam Gen 2, et on avait pris en main la 2 Violet Jaune. Et ensuite, on avait testé la barre de son Cabaz, mais ça, c'était il y a des années. Tous les donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, les 15 autres barres de son, on les a testées en moins d'un an. Donc du coup, on a vraiment mis le turbo sur les barres de son, et les enceintes Bluetooth d'ailleurs aussi. Les enceintes Bluetooth, c'est pareil. Je vais ici. Voilà, sur les enceintes Bluetooth, c'est pareil. À part la Anker, toutes les autres, on les a testées en un an. Donc on a un peu mis le turbo sur l'audio côté barre de son. Et bah en fait, dans les barres de son, évidemment, on parle de connectique, parce que la barre de son, c'est bien, mais encore faut-il la connecter ou au téléviseur, ou aux consoles, à la box, ou à la platine Blu-ray, ou voilà. La 2 Violet avec la boule, ouais, on l'a testé la 2 Violet avec la boule. Hop, la 2 Violet jaune, parce que voilà, c'est un 9 sur 10. Et donc, bah, il y a des connectiques. Sauf qu'en fait, quand tu vois les noms des connectiques, le SPDIF, HDCP, EDID, HDMI ARC, HDMI eARC, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'il faut du HDMI 2.1 forcément? Est-ce qu'il faut du HDMI 2.0? Ou est-ce que du HDMI 1.4 ça va suffire? Qu'est-ce que c'est que du coaxial? C'est quoi la différence avec du SPDIF? C'est quoi la différence entre le Toslink et le SPDIF? Voilà, tout ça, c'est des sujets qu'on voulait aborder, ne serait-ce que pour en fait étoffer un petit peu la partie connectique des barres de son quand on fait des tests, et pouvoir linker vers ça pour dire aux gens, bah voilà, si vous n'avez pas compris ce qu'on a dit, on a ce dossier-là, vous pouvez regarder dedans, c'est pas compliqué. Donc on vous explique évidemment le HDMI qui est la connectique principale, donc... On a deux types de barres de son, donc celle avec un seul connecteur HDMI, donc qui va être une entrée HDMI qui vient du téléviseur, donc on va profiter de la prise ARC ou eARC du téléviseur, donc Audio Return Channel, ou alors on a celle avec plusieurs entrées HDMI et une sortie, ce qu'on appelle en HDMI pass-through, donc le passe au travers, c'est-à-dire que on va pouvoir connecter directement sur la barre de son la console, par exemple, le lecteur Blu-ray, la clé Chromecast ou le boîtier Apple TV directement sur le téléviseur et sur la barre de son, et ensuite la barre de son envoie l'image au téléviseur. Il en existe des barres de son de 30-40 cm. Oui, regarde plutôt les modèles gaming pour le coup, Batix. Ensuite, c'est quoi la différence entre HDMI 1.0, 1.2, 1.3, etc. Sur le son, ce qui va être différencié, c'est que sur le 1.2, on va avoir le HDMI CEC qui va permettre d'utiliser une seule télécommande pour les différents appareils. Le HDMI 1.3, il va permettre l'audio multicanal en DTS HD ou Dolby True HD. Le 1.4, il va permettre le HDMI ARC, donc Audio Return Channel. Le HDMI 2.0, il va permettre le eARC. On l'a pas mis d'ailleurs. Ah non, le 2.1 permet l'eARC. Il me semble que sur le 2.0, on peut trouver aussi du eARC. Et voilà. L'importance des câbles, donc il faut un câble de bonne qualité, évidemment. Mode VRR, mais ça on est plus sur le côté vidéo. Le HDCP, donc c'est ce qui va permettre de protéger les contenus en HDMI. C'est un DRM, grosso modo. Donc il est impératif d'utiliser un téléviseur, un vidéoprojecteur et une source compatible HDCP 2.2, sans quoi le programme ne sera affiché au mieux qu'en HD avec un son 5.1 ou stéréo. L'EDID, c'est l'identifiant, de la barre de son et du téléviseur. Donc c'est ce qui va permettre à la barre de son de comprendre que le téléviseur il a telle définition, tel haut-parleur, tel format d'audio, etc. Pour pas lui envoyer un format en Dolby Atmos, enfin pour pas que le téléviseur envoie à la barre de son un format Dolby Atmos alors que elle est compatible uniquement Dolby Surround par exemple. Et donc, différence entre ARC et eARC, grosso modo, c'est le même principe, sauf que l'eARC va permettre le DTS:X, et le Dolby Atmos. Voilà, Dolby Digital Plus avec Atmos, Dolby True HD avec Atmos, Dolby DTS HD, DTS:X et le PCM 24 bits multicanal lossless. Donc il y a plus de formats sur de l'eARC. 2.0 eARC, il me semble que je peux éteindre et allumer le périphérique via l'HDMI. Oui, mais ça du coup, c'est via le CEC, c'est pas via l'eARC. Même si le CEC est intégré à l'ARC et à l'eARC. Le Consumer Electronic Control est une fonction de l'interface HDMI qui permet de contrôler avec la télécommande d'un appareil les fonctions de ceux qui sont connectés. Ainsi, la télécommande d'un téléviseur peut piloter un lecteur multimédia externe ou ajuster le volume d'une barre de son. En théorie, En théorie, la télécommande chaque maillon de la chaîne HDMI peut gérer au moins partiellement les fonctions de chaque appareil. avec la télécommande, je pense. Le point clé de l'interface HDMI CEC, donc transmission audio et vidéo dans un seul câble, résolution SD, etc. Bon, voilà. Ça, c'est sur le HDMI. L'interface optique Toslink, c'est cette interface qu'on voit ici et qu'on va voir d'ailleurs à peu près, qu'on va voir très souvent, le Toslink. On va prendre cette image-là parce que pour le coup, sur la Sennheiser, on a de tout. Le Toslink, c'est ça. C'est cette connectique-là, ici. Et le Toslink, donc c'est une interface numérique qui passe par un câble optique. Donc, même principe que la fibre optique. Le nom, il doit son nom à Toshiba Link. Grosso modo, vous allez avoir des signaux numériques. Donc, c'est très bien. Mais par contre, vous n'aurez pas les formats numériques lossless. Donc, pas de DTS:X et pas de Dolby Atmos. Flux audio stéréo jusqu'à 24 bits et 192 kHz. Cependant, assez peu de contrôleurs optiques intégrés au téléviseur et barre de son permettent d'atteindre cette haute résolution sonore et la plupart se limitent à 24 bits, 96 kHz. En ce qui concerne les programmes audio multicanaux, la norme SPDIF autorise la transmission des signaux Dolby Digital et DTS jusqu'à 5.1. Ainsi, les formats audio lossless et immersifs ne sont pas pris en charge. Le coaxial, c'est le même principe, sauf que la connectique est différente. Le coaxial, c'est... Alors là, ils l'ont mis en bleu chez Sennheiser. La plupart du temps, c'est du orange. Donc, c'est le même principe que le même type de connectique que le RCA qui, lui, est... donc, c'est les connectiques rouges et blanches que vous voyez pour gauche et droite et qui, lui, va être une connectique analogique. Sauf que là, c'est une connectique numérique. L'optique quoi, alias SPDIF, sauf que c'est vieux, ça date de 95 et c'est faible débit, bref, à éviter. Oui, dans l'absolu, de toute façon, et c'est un peu la conclusion du dossier, c'est que le plus important, c'est, enfin, passer en priorité par du HDMI si vous en avez. Après, il y a des barres de son entrée de gamme qui vont pas forcément avoir de HDMI ou des vieilles barres de son, mais qui vont avoir uniquement du Toslink. Dans ce cas, c'est le Toslink à privilégié ou le coaxial, puisque ça revient au même. C'est identique. Et voilà. Donc, c'est le même principe, sauf que la connectique est différente. Typiquement, du Toslink, on va retrouver sur la PS3 de mémoire. Il y a une connectique Toslink dessus, donc que vous pouvez très bien utiliser. Coaxial, on va la voir sur les... Si je dis pas de bêtises, la Wii U avait du coaxial. Coaxial avec une prise orange. Sortie caisson, donc LFE, c'est la petite prise qu'on voit là, qui va permettre de relier directement le caisson de basse à la barre de son, et éventuellement d'ailleurs de le faire en cascade. Si vous avez plusieurs caissons de basse, vous pouvez les relier parce que généralement on a une entrée comme ça LFE sur le caisson de basse et on va avoir également d'une sortie. Donc vous pouvez mettre plein de caissons de basse si vous avez envie de plein de graves. Prise Ethernet, ça va être essentiellement pour des fonctions un peu plus avancées, et si vous jamais voulez faire du streaming musical, ça peut être pas mal. Le port USB-A, généralement, il va être là ou pour la mise à jour ou pour alimenter des clés HDMI. Typiquement, si vous branchez directement un Chromecast là-dessus, vous pouvez l'alimenter avec une prise USB-A. Entrée ligne analogique, c'est à éviter. Ça peut être du mini jack ou du RCA. C'est à éviter. C'est vraiment si jamais il y a que ça. Voilà, si jamais vous avez un très vieux téléviseur, mais c'est à éviter. Les branchements recommandés pour votre box TV, votre console de jeu, votre lecteur Blu-ray ou votre clé HDMI. Donc, dans l'absolu, prenez du HDMI. Prenez du HDMI eARC. Si vous n'avez pas de eARC, prenez du HDMI ARC. Si vous n'avez pas de ARC, prenez du HDMI Pass-Through et vous connectez directement si vous avez plusieurs entrées HDMI sur la barre de son. S'il n'y en a pas, Toslink ou Coaxial. Et s'il n'y en a pas, mais dans ces cas-là, n'achetez pas la barre de son, prenez du RCA ou du jack. J'espère que c'est clair. C'est pour ça qu'on compte sur des sites de tests comme Frandroid pour nous conseiller les barres de son entrée de gamme avec les meilleures connectiques. Exactement. Et pour le coup, sur les barres de son, on a des modèles pas très chers. Alors, on a des modèles très chers, forcément, mais voilà. La Polsinia S4 à 349 €, très bonne affaire. Sonos Ray 299 €, très bonne affaire. Ensuite, c'est des modèles un peu plus chers. La Sennheiser à 1490 €, excellente affaire pour son prix, mais c'est très cher. La Polsinia, je crois que pour le coup, Tristan avait beaucoup aimé. Et à chaque fois, on le fait, hein, on voit les connectiques. Donc là, on a...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
TV HDMI, ARC, eARC, bah dans ce cas prenez la connectique HDMI, c'est ce qui va suffire. La Sonos Ray, je pense qu'on a du HDMI aussi au dos. Non, on n'a pas de HDMI sur la Sonos Ray. On n'a pas de HDMI. Et bah dans ces cas-là, vaut mieux passer par le Toslink. Voilà, parce qu'on n'a pas de HDMI là-dessus. La 2 Violet Dune, je pense qu'on a tout hein, sur celle-là. On a du HDMI, on a du Toslink ici, et voilà. La Sennheiser, on a évidemment de tout, parce que Sennheiser, ils ont plusieurs entrées HDMI, ils ont une sortie HDMI iARC probablement. Voilà, ici, ça c'est du iARC, c'est écrit à l'envers ici. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, vous pourrez tout comprendre, et ça on va le linker à chaque fois. La prise jack, juste pratique quand on a un smartphone avec une prise jack et qu'on ne veut pas se connecter à barre de son en Bluetooth, chez des amis par exemple. Oui, et encore aujourd'hui, si tu passes par un service de streaming, aujourd'hui il y a beaucoup de barres de son qui vont être compatibles Spotify Connect ou intégrées même directement Chromecast Audio. Donc tu auras un son encore de meilleure qualité qu'en Bluetooth ou qu'avec le DAC un peu pourri probablement de ton téléphone, parce qu'aujourd'hui les DAC sont pas très bons. Salut Samuel, j'espère que ça va bien. On a quoi du coup comme barre de son sous 200€ avec de l'HDMI? Je saurais pas te dire, on n'a pas testé suffisamment, mais on va faire un petit tour, on va aller voir chez Darty. Tiens, on va pas faire Amazon, je pense que Darty ils auront des trucs qui seront un peu plus avancés sur les moteurs de recherche. On va aller regarder TV, vidéo et home cinéma, catégorie barre de son, alors pas barre de son Bose, hein, barre de son tout court. Et donc on a dit moins de 200€, hop, déjà ça va pas mal réduire, je sais même pas si d'ailleurs il y a le moins de 206. Et avec caractéristiques, si je veux voir plus, bon en fait c'est pas possible. Si on prend la Yamaha, tiens, je pense que Yamaha va y avoir de l'HDMI. Voilà, sortie HDMI ARC. Alors, ARC uniquement, c'est pas de l'IARC a priori. Donc, t'auras pas de Dolby Atmos, etc. Mais de toute façon, la barre de son a priori n'est pas compatible de Dolby Atmos. Donc, voilà, c'est un exemple. Hein. C'est cette Yamaha a l'air de le permettre. En effet, le casque, c'est encore mieux. Heureusement, sur mon S10e, le DAC est de très bonne qualité. Bah, tant mieux. Les Denon, a priori, Denon, c'est réputé aussi. Donc, il y en a quelques-unes quand même avec du HDMI ARC. Alors, généralement, c'est ça. Ça va être du ARC et pas de l'IARC parce que ça va pas être des barres de son qui vont permettre de l'audio se rendre. Avec verticalité, ce que j'appelle avec verticalité, c'est avec l'impression d'avoir du son qui vient du haut, c'est du son qui va venir d'autour, donc horizontal, mais pas vertical. Donc de fait, comme ces barres de son ne le permettent pas, ça sert pas à grand chose d'avoir du Dolby Atmos ou du DTS:X, donc finalement, le fait qu'elle soit ARC ou IARC, ça revient au même. Voilà, là, la Bose Solo 5 aussi. Donc il y en a quelques-unes quand même, hein. Qui vont être dans ces prix-là, et avec une connectique HDMI. Écoutez, je pense qu'on est bon là-dessus. Je vais regarder s'il y a eu d'autres news ce matin. Vanmoof, hop. Ensuite, c'est le Xbox Game Pass. Vanmoof, selon le quotidien financier FD, Vanmoof vendrait ses vélos électriques à perte, ce qui pose logiquement de nombreuses questions quant à l'avenir de la marque néerlandaise. Après, c'est le principe de toute start-up, c'est au début de vendre, pas forcément à perte, mais en tout cas de faire très peu de profit. Je crois que c'est Carl Pei, de chez Nothing, qui dans une vidéo pour le coup, qui est une très très bonne, je vais vous la partager d'ailleurs, faut comprendre l'anglais, alors Nothing YouTube, où en gros Carl Pei a fait une review des derniers iPhones, c'est celui-là. Donc faut comprendre l'anglais, mais je vais vous simplifier. Grosso modo, ce qui est intéressant sur cette vidéo, c'est que il aime beaucoup l'iPhone évidemment, mais il explique price, voilà, dans cette partie-là. Il explique qu'en fait, eux vendent à perte. Le Nothing Phone 1, il est vendu à perte. Voilà. Ils font aucune marge. Or, il n'est pas vendu à perte parce qu'ils perdent pas d'argent, mais ils font aucune marge sur leur premier téléphone. Donc, leur téléphone coûte $360 à fabriquer. Ils le vendent $450. Et donc, notre marge est de, si on retire les coûts logistiques, les coûts des partenaires d'Amazon, enfin les profits d'Amazon, etc. Voilà, la marge est de zéro. Quand une boîte veut se lancer, souvent au début, elle veut faire parler d'elle, en tout cas c'est le principe même des startups, ils veulent faire parler d'eux, donc ils gagnent pas d'argent. Leur but c'est de faire des parts de marché et ensuite de gagner de l'argent. Xiaomi au début c'était un peu pareil, hein. Xiaomi gagnait pas beaucoup d'argent au tout début. Technique très classique pour percer sur le marché, faut le croire sur parole, faut le croire sur parole. Pire que Xiaomi, même Xiaomi font moins du 10% voire 15%. Maintenant, Xiaomi il y a 5 ans, je suis pas sûr que c'était le cas. Faut avoir confiance en la stratégie de se faire un nom avant de faire augmenter les prix et devenir rentable. Exactement. Donc, c'est pas très étonnant que Vanmoof ait à peu près la même stratégie. Sauf que Vanmoof, a priori, c'est même pas qu'ils gagnent pas d'argent, c'est qu'ils en perdent. Vanmoof vendrait tout bonnement à perte. En clair, un vélo électrique écoulé ne lui permettra pas de couvrir l'ensemble des coûts liés, alors que pour le coup, nothing, c'est le cas. Au total, la perte de marge brute aurait atteint la coquette somme de 11,9 millions d'euros, en se basant sur le chiffre de vente de 2021. L'année d'avant, en 2020 donc, cette perte d'exploitation aurait été de 6,7 millions d'euros. En clair, ça va de mal en pis. Pour expliquer ces chiffres, le journal FD cible en une principale problématique, le remplacement de pièces sous garantie, qui aurait coûté aux fabricants la bagatelle de 8 millions d'euros. Et ça, c'est des coûts que, bah, qui sont pas forcément qui sont pas forcément anticipés par les constructeurs. Surtout sur des vélos où il y a des pièces mécaniques qu'il faut réparer, ça peut faire très mal. Ça veut surtout dire que les dites pièces étaient défectueuses et manquaient donc de fiabilité sur le long terme. Nous n'avons pas de détails sur la nature précise des pièces remplacées. Outre ces problèmes de qualité et ces difficultés à joindre les deux bouts pour vendre de manière rentable, Vanmoof subit la loi de la crise depuis 2020 et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Bon, ça, c'est un peu, enfin, c'est la suite de ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est la crise pour tout le monde. Donc c'est la crise pour Vanmoof aussi. Ils ont eu du retard sur les ventes, enfin la production de certains vélos, etc. Voilà. De nombreuses questions demeurent quant à l'avenir de Vanmoof malgré une levée de fonds de 128 millions d'euros réalisée en septembre 2021. Mais entre les coûts liés à la recherche et au développement, à la production, au service après-vente et au remplacement de pièces, l'argent peut vite être dépensé. En cas d'arrêt d'activité, quel serait le sort des actuels clients en cas de pépin technique ou logiciel? Bon, après, je pense qu'au bout d'un moment, Vanmoof va augmenter ses prix. Ça me paraît relativement logique. Ça me paraît pas si grave que ça, dans l'absolu. Ah, c'est moi. Ça me paraît pas si grave que ça, dans l'absolu. Je pense que s'ils finissent par augmenter leur prix, bah, ils vont, voilà. Faut juste qu'ils aient. Le problème, c'est sur les vélos électriques, notamment les vélos électriques connectés, comme ça, on a un secteur qui est très concurrentiel entre Vanmoof, Cowboy et d'autres. Donc c'est compliqué de tirer son épingle du jeu. Et les Vanmoof, l'air de rien, ils sont pas, c'est pas des vélos qui sont donnés en plus. Hein. C'est lesquels qu'on a testé les derniers? Vanmoof, le A5, le S5, le X3, les derniers tests. Voilà, le Electrify X2. Il n'y a pas d'offre pour le moment. Ok, le Electrify S2, il n'y a pas d'offre pour le moment. On peut peut-être les acheter que chez eux. Ça date de quand ce test? 2019. Ah, ça date un petit peu. Hein. Vanmoof, si on va sur leur site et qu'on veut acheter un vélo, acheter le S3. Le X3 est épuisé. 2498 euros, ça me paraît pas abusé pour un vélo électrique connecté. Si c'est un problème d'augmenter les prix car ils sont déjà très chers. Oui, mais t'as des fonctions connectées, tu vas pas trouver chez d'autres vélos électriques. T'as des fonctions anti-vol que tu vas pas trouver, enfin, et de sécurité que tu vas pas trouver chez d'autres vélos électriques. Donc c'est cher, évidemment. Mais si tu prends un Cowboy par exemple, Cowboy ils sont dans les mêmes tarifs, si je dis pas de bêtises, hein. Commander maintenant. Ouais, c'est encore plus cher chez Cowboy. Et je compare avec Cowboy parce que justement, ces deux marques. Après, je m'y connais pas aussi bien en vélo que Greg ou probablement que certains d'entre vous. Mais Cowboy et Vanmoof, ils sont concurrents directs parce que c'est des vélos électriques connectés. C'est pas justement comme des moustaches qui vont être des vélos électriques. Tout bête. Là, pour le coup, on peut géolocaliser le vélo, on peut le déloquer via son smartphone, etc. Donc, il y a des fonctions qui sont un peu plus poussées. Après, effectivement, c'est cher. Bon, là-dessus, on est d'accord. Mais les finitions, elles sont quand même très soignées. On a peu de traces de soudure. Voilà. Donc, voilà pour Vanmoof. Ça sent pas très, très bon pour eux. Ce sera toujours la crise, même de pire en pire. Ouais. Merci, Limka, pour cet élan d'optimisme. Toutes ces entreprises oublient le droit de la concurrence. C'est le contraire. En général, ils vendent à perte pour casser la concurrence, mais ils le cachent en disant bilan zéro. Oui, mais ils n'arrivent pas à casser la concurrence, hein, pour le coup. Puis, ils ont le droit de faire ça. Tant qu'ils vendent pas... une marque a le droit de vendre ses produits à perte. En revanche, c'est les revendeurs qui n'ont pas le droit de revendre à perte. Typiquement, c'est un secret pour personne, les consoles de jeux sont vendues à perte. Aujourd'hui, une PS5 coûte plus cher à concevoir... Que vous ne l'achetez, que le prix auquel vous ne l'achetez. Elles vendent à perte dans le but que vous, derrière, vous achetiez les jeux. C'est pareil, une imprimante est vendue à perte, en fait. Le constructeur se refait de l'argent sur le marché des, enfin, sur la vente de cartouches, ou de jeux vidéo dans le cadre des consoles, ou de lames de rasoir dans le cadre des rasoirs. Perso, vélo, pas électrique ou électrique, dépassé 800 euros, je serre les dents. Au-dessus, j'achète un scooter de case. Si j'ai 2000, 3000 euros, j'achète une voiture de case. C'est une bonne alternative. Et salut, Anthony. Du même avis qu'Antonyme, ok, Antonyme. Oui, aucune console ne rapporte de l'argent, tout est basé sur le Game Pass et les jeux à 80 euros. Exactement. Sinon, la série X et la PS5 coûteraient 900 balles. Tout à fait. Et c'est pour ça que une console de jeu reste moins chère à performance égale qu'un PC. À performance égale. Pareil pour les cafetières Tassimo, oui, c'est précis. Oui, ou les cafetières Nespresso. Hein. C'est la même chose pour les machines à café. Et C'est Quinn Tawark qui l'a dit en premier. Le premier qui dit chips a gagné, hein, entre les deux. La Tassimo X de 2017, pour être très très précis. Si seulement il y avait que celle-là. Bah écoutez, on va passer à la suite. Parce que c'est vrai qu'en vrai, une machine à café classique, une machine à expresso classique, genre une vraie où tu mets du café, ça coûte moins cher. Enfin, le café coûte moins cher, mais la machine en elle-même coûte plus cher au début. Chips, bien joué, Wendigo. Oui, mais Wendigo, t'étais pas dans le truc, toi, tu parlais pas de machine à café. Bon, est-ce qu'on a autre chose en news de ce matin? Non. Bah écoutez, on va continuer à parler des news d'hier. Alors, je vous avais dit qu'on allait faire le Galaxy S23. On va faire le Galaxy S23 parce que le lancement, alors que je dise pas de bêtises, hop, ça va être ici. On est le 26, le lancement est dans moins d'une semaine. Le lancement est dans moins d'une semaine, le 26, du coup, c'est bientôt. C'est bientôt pour les Galaxy S23 Ultra. S23, S23 Plus, S23 Ultra, puisque ce sera mercredi prochain qu'on aura le lancement des smartphones. Le zoom numérique promet du très très beau. Galaxy S23 Ultra, malgré l'utilisation du même capteur pour son X10, maîtriserait encore mieux les zooms numériques, et en particulier jusqu'au x30. Aujourd'hui, les consoles sont quand même de plus en plus vendues à prix coûtant, à quelques euros près. Donc, oui, mais forcément, parce qu'au début, ils perdent de l'argent, parce que bah, t'as toute la R&D, mais au bout d'un moment, c'est amorti, ça. Ils perdent de l'argent, mais de moins en moins. Pour la PS5, Sony, d'après les estimations, ils perdent 50 euros par console vendue. Pour la PS3, ils perdaient 200 euros par console vendue. Ok. La PS3, pour le coup, était... C'est la PS3 qui était très très chère par rapport au lancement, par rapport à la Xbox. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être une bêtise. J'entends café, mais devant on tapotait, ouais. Ah, il m'en reste un peu. Il est froid. C'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle info? En vrai, les infos, on l'a quasiment tous. Qu'est-ce qui a pris ces photos-là sur Twitter? Leaker Edward Urbina, qui affirme avoir pris des photos avec le zoom x30, le zoom x10, donc le zoom optique le plus puissant de l'appareil, sur le S23 Ultra. De quoi se faire une idée de ses qualités. Ce qui nous intéresse le plus est sans doute le second. En effet, on y voit un cliché pris en mode x30, à savoir un zoom numérique, zoom hybride. Et le résultat, malgré un léger flou sur son sujet, reste relativement probant et utilisable, de quoi largement concurrencer le zoom super res d'un Pixel 7 Pro de Google. D'autres clichés publiés par le leaker en x30 montrent un vrai gain en qualité. C'est pas mal. Pas incroyable, mais c'est pas mal. D'après Samobile, cette amélioration ne serait pas du tout attribuable au matériel, puisque les deux téléobjectifs conserveraient leur capteur IMX754. Il s'agirait essentiellement d'une amélioration du traitement d'image, en partie imputable au Snapdragon 8 Gen 2 et son nouvel ISP, donc la puce dédiée à la photo. Je pense qu'il y a autre chose. Samobile a sans doute raison, mais je pense qu'il y a autre chose. On va faire ça. Est-ce que d'ailleurs... Ouais, vous voyez tout l'écran. Paint. J'aime bien faire des petits schémas sur Paint. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc tout bête. On va prendre deux capteurs photo. Deux champs d'image. Donc là, on a le zoom, enfin l'objectif classique, qui va vous permettre de voir un petit bonhomme, un petit bonhomme bâton. J'aime bien quand, ouais, j'adore Paint, moi je ne jure que par Paint. Alors attends, on va le faire comme ça, voilà. Un petit bonhomme bâton en trait épais. Comment je fais pour modifier l'épaisseur? Ah, l'épaisseur du trait, c'est là. Alors, un petit bonhomme bâton, voilà. Petit bonhomme bâton. Donc là, on est sur le grand angle. Et là, on va passer sur le zoom. Dites-vous. Il y a une chose qui va être intéressante sur ce zoom, en fait, c'est que potentiellement sur le grand angle, on va avoir, alors je vais le mettre en très fin, on va avoir beaucoup de pixels sur le grand angle. Du coup, là je suis en train de vous faire tous les pixels, alors il y en aura beaucoup plus, hein, puisque pour le coup on montrait à 200 mégapixels. Là où sur le téléobjectif, bah en fait, voilà, c'est tout bête, hein, mais grosso modo, comme on aura plus de pixels là-dessus, potentiellement le grand angle... le capteur associé à l'objectif grand angle pourra aider le capteur dédié au téléobjectif et donc avoir plus de netteté. Je sais pas si je suis clair, ça existe encore, oui ça existe encore. Dites-moi si je suis clair ou pas, mais grosso modo, c'est ça, c'est que du coup, comme on va avoir 200 mégapixels sur le grand angle, sur le capteur associé à l'objectif grand angle, là où pour le coup on en aura moins probablement sur celui-là, bah du coup on pourra se servir, on dirait qu'il est en prison mon personnage, on pourra se servir de l'objectif grand angle, enfin du capteur associé à l'objectif grand angle, qui aura une meilleure définition pour zoomer un peu plus là-dedans, dans le téléobjectif. Ils vont rajouter, c'est pas qu'ils vont rajouter des pixels, en fait, c'est que ils les voient avec le grand angle, donc du coup, il va pouvoir améliorer la netteté sur le téléobjectif. En tout cas, c'est ma théorie, et j'ai fait une actu en début de semaine. Alors, si je vais sur le S23, la fiche technique, c'est pas encore une fiche officielle, hein, parce que le téléphone n'a pas été annoncé. Donc, tout est sujet à caution, en termes de fiche technique, etc. Je vous rassure. Voilà, j'ai fait cette actu-là. En fait, Samsung, c'est tout bête, mais ils ont fait un petit teasing sur les S23 en parlant de Moon, la Lune, comme je le dis très bien. A priori, aujourd'hui, quand on prend des photos avec le S22 Ultra de la Lune, ça rend ça. Ça, c'est les photos que Omar a prises. On peut passer l'une à l'autre. Yes. Les photos que Omar a prises. L'idée, c'est que, d'après de récentes fuites, le smartphone proposerait non seulement un capteur photo principal de 200 mégapixels capable d'aider l'appareil longue focale pour le zoom hybride grâce à haute définition, mais également d'un module dédié doté d'un capteur de 10 mégapixels et surtout d'un téléobjectif équivalent de 230 mm. Donc, on aura à la fois le même zoom que sur le S22 Ultra, mais également un capteur principal qui sera mieux défini, qui pourra mieux aider sur le zoom hybride. Perso, j'utilise presque jamais le zoom sur mon iPhone 12 mini. Au pire, je me rapproche le plus possible pour essayer de garder un maximum de qualité. Sur le 12 mini, c'est pas bête. Sur les 14, comme on a les capteurs de 48 mégapixels, en vrai, tu peux commencer maintenant à zoomer. Donc, il pourrait améliorer les détails du x3 grâce aux infos du x1 et donc enlever cet effet de flou qu'on a parfois. Exactement. C'est ce que je pense. C'est une théorie. J'ai pas d'infos, je crois pas avoir vu de leak là-dessus, mais c'est ce qui me semblerait le plus logique, parce qu'en fait, un zoom aujourd'hui sur un smartphone n'est jamais qu'un zoom, n'est jamais que un zoom numérique, c'est un zoom hybride qui va utiliser les données des trois capteurs la plupart du temps. Voilà pour le S23 Ultra. On va passer à Garmin. Regardez, c'est ma montre. Alors, c'est pas la même parce que du coup, ça c'était la musique, et ça va être intéressant. Celle que j'avais testée à l'époque, c'était la 255 Music, la Garmin Forerunner 255 Music. Moi, j'ai la Garmin Forerunner 255 classique. Je peux pas faire la mise au point. Est-ce que je peux passer en mise au point manuel? Une petite seconde. Focus manuel. Et donc là, oh non, ça c'est le zoom. On va dézoomer. Et la bague de mise au point, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est la Garmin Forerunner 255. Vous voyez l'écran? L'écran, c'est un écran qu'on appelle LCD transflectif. C'est le même principe, enfin ça ressemble en tout cas à un écran de liseuse. Le principe de cet écran, c'est qu'en fait, là il est allumé, mais il n'émet pas de lumière. Je peux allumer le rétroéclairage, donc là je viens de l'allumer, mais vous voyez pas si on voit la différence? Non. L'avantage, c'est que c'est hyper lisible. Alors, je me remets bien. L'avantage, c'est que c'est hyper lisible en plein jour. Si vous avez du soleil, etc., il n'y a pas de problème de réflexion, au contraire. Et voilà. Simplement, c'est beaucoup moins beau que de l'OLED. Enfin, très, très, très objectivement, hein. C'est pas aussi beau, il n'y a pas autant de contraste, il n'y a pas tout. Enfin, c'est pas aussi beau que l'OLED. A priori, on a pas mal de rumeurs qui pointeraient vers de nouvelles montres Garmin, Forerunner, donc la même gamme que celle-là, la successeur d'ailleurs de celle-là, la Forerunner 265 et la Forerunner 965, qui sortiraient très rapidement. Ce qui, pour le coup, est très étonnant parce qu'entre la 245 et la 255, on a eu 3 ans d'attente et pour le coup, bah, la 255, elle a même pas un an, et donc voilà, donc il lancerait déjà un nouveau modèle. Pourquoi? Parce que cette fois il y aura un écran OLED. Donc ça, c'est une fuite qui nous vient du site The 5K Runner, donc le coureur de 5K, enfin de 5 km, qui indique avoir reçu deux photos d'une montre. Donc on voit au dos, c'est la 265S, donc la 265 en petit format. Qui sont très semblables à la 255S actuelle. Évidemment, on a juste des différences au niveau de la lunette autour et évidemment de l'écran, qui serait un écran LCD un écran OLED. On trouverait la même connectique au dos que sur les montres Garmin actuelles, donc avec à brancher avec une broche particulière, etc. Ça permet une consommation inférieure. Oui, moi j'ai une autonomie de 5 jours avec ma montre. Je pense que, c'est mon pigiste Maxime qui est en train de tester à ce moment la Epix Gen 2, qui est la même chose que la Fenix 7, mais en version AMOLED. Et a priori, oui, il y a des différences de batterie. Là, j'ai l'écran qui est allumé en permanence, et en allant courir 3-4 fois par semaine, je tiens 5 jours. Donc, enfin, il est allumé. Il n'est pas rétro-éclairé en permanence, mais voilà, j'ai tout le temps quelque chose à mon poignet. Dommage qu'il y ait autant de rebords de départ entre le bord et l'écran. Ouais, mais pour le coup, c'est pas ça gênant. Sur des montres Garmin, je fais beaucoup moins gaffe au look. Sur des montres de sport, je sais que ça compte, hein, et on en tient compte pendant nos tests. Comme il y a 5 boutons autour de la montre, je trouve que c'est pas mal en fait que tu saches ce que va faire chaque bouton. Ça change la vie, les montres connectées quand on court. Oui, moi ça m'a changé la vie. Et c'est pour ça que j'en ai acheté une en fait. C'est parce que, à force de tester des montres, de courir avec des montres connectées, maintenant je peux plus courir sans. J'ai besoin de voir mon allure calculée fiablement. Genre avec un GPS de bonne qualité, j'ai besoin de voir ma fréquence cardiaque aussi. le rebord, c'est bien, ça le protège. Oui, oui, surtout sur des montres de sport où tu cours et potentiellement tu vas faire du trail, de la randonnée, etc. Donc tu peux te frotter à un arbre, à un rocher, etc. C'est bien que ça soit un poil protégé. Alors c'est pas, on n'est pas aussi protégé que sur des montres typiquement, bah, voilà, la Epic Gen 2, qui elle va avoir des bordures beaucoup plus larges et un écran en saphir. Mais voilà. Forerunner 965 qui sera également dans les tuyaux. Donc ça, c'est cool. Et voilà, comme je disais, un lancement aussi rapide de la nouvelle gamme Forerunner de Garmin a cependant de quoi surprendre. Il faut dire qu'il a fallu patienter 3 ans entre la Forerunner 245 lancée en 2019 et la Forerunner 255 disponible depuis l'été dernier. Surtout, la gamme des Forerunner 255 et Forerunner 955 était un vrai bond en avant pour le constructeur, avec l'ajout de la variabilité de la fréquence cardiaque, un capteur cardio-fréquence-mètre plus précis, un suivi GPS, GNSS double fréquence, y compris sur la 255, des fonctions dédiées au triathlon et un nouveau baromètre. Donc on avait pas mal de nouveautés. Après, ce qui est possible aussi, c'est qu'on ajoute quelque chose qui a été ajouté hier sur les montres Garmin, c'est l'électrocardiogramme. Alors qui a été ajouté hier sur une montre Garmin. Ça fait 6 jours que j'ai rechargé ma Xiaomi Watch S1. Devine à combien de batterie je suis. Tix, je pense qu'à 6 jours, tu dois... Alors ça dépend si tu as l'écran Always On ou pas. Mais je dirais que tu es à... Sur la Xiaomi Watch S1, tu dois être à 20%. De batterie, un truc comme ça, de mémoire. Hein. Je pense que si t'as l'écran Always On, c'est une semaine d'autonomie. Si tu l'as pas, ça va être autour de 10 jours. C'est pour ça que les montres Wear OS, c'est un problème, c'est qu'elles ont une autonomie désastreuse comparée à une Xiaomi Watch S5 qui a un écran OLED et qui, pour le coup, a une très très bonne autonomie. Comme les montres Huawei, d'ailleurs. L'habitude, et surtout l'habitude des écrans rectangulaires que j'apprécie, car optimisation de l'espace d'affichage. Oui, sur les Apple Watch, c'est pas mal. Et sur les Amazfit X, donc ces Amazfit GTR, GTS sur les écrans rectangulaires. J'arrive pas à m'y faire avec les montres connectées à cause du design. Je trouve les montres bijoux plus belles. Oui, alors dans ce cas, t'as une alternative, si jamais tu es intéressé, sinon on s'en fout, qui est une montre que moi j'avais beaucoup aimé, c'est la ScanWatch, ou les montres hybrides en général. Hein. La ScanWatch qui est une... on va aller voir sur le test, hein, ce sera plus simple. Comme ça, on aura des photos et non pas juste des rendus. C'est une montre... alors là, pour le coup, c'est petit format, donc ça allait, c'était pas idéal, mais c'est une montre connectée avec un petit écran là-haut, mais un vrai cadran, et qui en noir en plus s'oublie, enfin se voit pas. Et sur le cadran, voilà, tu vas pouvoir recevoir tes notifications, tu vas pouvoir recevoir, enfin contrôler certaines choses. Alors, tu peux pas afficher la fréquence cardiaque ou le GPS, il n'y a pas de GPS. La fréquence cardiaque en continu pendant le sport, je suis pas sûr qu'elle soit affichée. On faisait pas ces tests-là à l'époque, mais c'est plutôt pratique. C'est quoi la variabilité de la fréquence cardiaque ? La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est le temps que ton cœur va mettre entre deux battements en millisecondes. Et enfin, alors, c'est un truc qu'il faut qu'on approfondisse parce que sur le site, pour le coup, on n'est pas encore hyper au point. Grosso modo, ça donne un aspect de ta santé et de ta récupération et tout ça. Et moi, pour le coup, j'ai eu le Covid en fin d'année dernière et j'ai vu que la variabilité de fréquence cardiaque pendant le Covid, elle a chuté. C'était impressionnant. Et la montre a compris que j'étais malade. Mais vraiment grâce à ça. Je saurais pas encore te dire ça hyper bien, Fusro Yoda. C'est un sujet sur lequel on veut bosser un petit peu dans les prochains mois. On va sûrement faire un tuto pour expliquer ça plus précisément. Ou alors je remettrai à jour. On a un dossier sur SPO2, mais très probablement un jour ce dossier-là. Rythme cardiaque, VO2 max, SPO2, ECG, comment les montres connectées prennent soin de votre cœur. Et c'est une donnée qui commence à apparaître notamment chez Garmin, mais qu'on retrouve également chez d'autres mondes de sport. Et voilà. Ça aurait été une mauvaise idée de sortir une montre connectée en 2020 ou 2021 pour cause de Covid. Oui, mais en même temps, pendant le Covid, la seule excuse qu'on avait pour sortir, c'était si on avait un chien ou pour aller courir. Donc t'as plein de gens qui se sont mis au sport à ce moment-là. Hein. 75% pas de Always On et pas de levée pour activer, je préfère le bouton. Ok, donc du coup, t'as combien d'autonomie ? Xiaomi Watch S1 en argent fait vachement... T'as pas répondu, Batix, à combien t'étais du coup, après 6 jours d'utilisation ? C'est peut-être une montre prête depuis 2 ans. Oui, peut-être. En fait, le truc, c'est que je vois... Il y a assez peu de valeur ajoutée pour remplacer... Et surtout, en fait, c'est ce que j'explique dans ma news. Je suis retombé sur Garmin. C'est ce que j'explique dans ma news, c'est que l'air de rien, l'OLED, c'est pas forcément idéal. En sortant sa nouvelle gamme aussitôt après le lancement de la nouvelle génération actuelle, le risque est que Garmin ne propose finalement que très peu d'innovations, à l'exception d'un écran OLED qui risque de faire baisser l'autonomie de ses montres. Ça d'une part, et surtout, l'avantage de cette technologie-là, c'est que je peux très facilement lire l'écran, même en plein soleil. Ce que vous voyez tout à l'heure, vous voyez avec un Y et un I, que vous avez vu tout à l'heure. Alors, je vais repasser, voilà. Là, pour le coup... On va le faire avec les reflets, pour le coup, je sais pas si ça va être possible, si ça va être jouable. Ou c'est, voilà, les reflets ici, j'arrive pas à mettre... Bon, tant pis. Je vais comme ça, hop, 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 voilà. Vous voyez, vous avez le reflet. Et pour le coup, malgré ces reflets, on ne voit pas trop. Mais ça reste lisible. Vous voyez quand même le blanc, etc. de l'aiguille. Et en fait, l'écran, il est parfaitement lisible en plein soleil quand on court. Et ça, et de l'OLED, c'est pas dit que ça soit le cas. Parce que l'OLED a besoin de rétroéclairage pour être lisible. Enfin, a besoin d'éclairage. Pas de rétroéclairage, puisque de fait, l'OLED se rétroéclaire tout seul, mais voilà. Nul focus, merci. Malgré les reflets, ça passe exactement. Et ça passe très bien. Enfin, là, pour le coup, ça rend pas justice. Vraiment, ça passe très très bien sur, en plein soleil. Si j'avais baissé l'exposition de la caméra, ça se serait vu. Ah si, 75%. D'accord, pardon. Excuse-moi, Batix. Faut lire le chat. Oui, non, mais tu croyais que ça va faire, moi de vous lire. Dire qu'en laissant ma Samsung Watch Active 2 en toujours allumé et qui check le temps, tout le temps mon cardio, mon stress, je tiens de 8h à 20h avec 50% de batterie restante, puis je la recharge pour avoir 100% avant de dodoter et un bout le matin pour passer 93% à 100%. Ok, non, c'est propre, c'est pas mal. Et tant de voir aussi peu d'ailleurs de e-ink, étonné, j'imagine, de voir aussi peu d'ailleurs de e-ink. Bah, en fait, ça ressemble pas mal à l'e-ink en termes d'expérience. C'est très semblable à l'e-ink, mais c'est pas l'e-ink. J'aime beaucoup la techno de Tamon Griffou, j'utilise le GPS pendant 30 minutes et une heure de muscu aussi. Bah, voilà, moi les Garmin, enfin, je l'ai testé. Je crois que c'était la première fois que je testais vraiment une montre. Alors, c'est pas la première fois, non, j'avais déjà testé une Polar avant, mais c'était un coup de cœur. Forerunner 255, je l'ai testé en juin, je crois. Voir le test. J'ai testé en août. Je l'ai acheté en octobre. Et du coup, je vais courir un semi-marathon. Grâce à cette montre, en me disant, bah tiens, la montre, du coup, m'aide vraiment à avoir des données de santé qui sont fiables. Y a des programmes d'entraînement qui sont gratuits, qui sont intégrés directement à la montre, il y a des, enfin voilà, c'est vachement bien. Et t'as tout, alors je vais pas vous le montrer parce que je suis pas connecté à mon compte. Déjà, le GPS est plus fiable que celui de mon téléphone. Là, c'est le GPS de la Forerunner en orange. Bah c'est le trajet que je prends. Là, on voit que ça passe pas forcément sur le sentier sur le smartphone, alors que sur la montre, vraiment, c'est pile sur le sentier. Là, pareil, la montre en orange, c'est impeccable. Là où en bleu, bah voilà, vous voyez la ligne du bas, elle est pas hyper. Enfin, parfois je suis un peu sur la route, parfois je suis dans les immeubles. Sur la montre, c'est impeccable. Le GPS est très bon. La fréquence cardiaque, on voit le suivi. La ceinture abdominale qu'on avait en référence, elle est en bleu. Bah, en rouge, ça suit ce suivi-là. En fractionné, c'est pareil. Donc non, elle est très bien. Les données sont très fiables. Elle n'est pas hors de prix. Genre, c'est 350€, donc c'est le prix d'une Galaxy Watch à peu près, voire même moins cher. Et elle est très bien. Voilà, donc, j'en suis très content. On a une idée des prix de lancement de la 265. Alors probablement elle sera un peu plus chère, je miserais bien sur un 400€ perso. Après, pour le coup, on n'en sait encore trop rien. Et voilà, on n'en sait encore trop rien. Je crois vraiment que la prochaine sera sans doute une Garmin. La Watch 4 et 5 semblent moins endurantes que la Watch 2. Je te confirme. Les Watch 4 et 5. Alors la 5 Pro peut tenir 2 jours, la Galaxy Watch 5 Pro, mais sinon c'est une journée. N'empêche, GG, l'évolution entre tes débuts de test de montre et de savoir que tu vas faire un semi. Mais en fait, je vous spoil, hein, je vais faire un test longue durée de cette montre-là, même si bah, pour le coup c'est la mienne, donc c'est plus facile. C'est pas une montre qui a été prêtée, donc généralement les tests longue durée, c'est des montres qu'on garde après un test. Là pour le coup, je l'ai acheté et je vais faire un test longue durée de une fois que j'aurai fait le semi-marathon, si j'arrive à mon objectif, ce qui n'est pas dit du tout. Mais c'est tout bête. En fait, je teste des montres pour renforcer l'efficacité de ces tests. On s'est mis à courir parce que bah, c'est le seul moyen d'avoir un bon suivi GPS et de voir comment si la montre va bien faire varier la fréquence cardiaque et si elle va bien mesurer les différences de fréquence cardiaque qu'on va avoir. Donc du coup, je suis obligé de courir. Sauf que le problème, c'est que bah, je continue à courir, etc. J'ai pris goût au fait de courir. Sauf que je peux plus courir sans montre. J'ai besoin maintenant d'avoir un GPS qui soit fiable, alors ce que je pourrais avoir avec un téléphone au brassard et ce que j'ai avec un téléphone au brassard de toute façon, mais j'ai besoin aussi d'avoir un suivi de fréquence cardiaque qui soit fiable pour savoir si je suis en zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Les zones de fréquence cardiaque, c'est en fonction de votre fréquence cardiaque maximale et minimale. Plus vous allez courir, plus les zones vont baisser et plus vous allez pouvoir accélérer sans monter dans les zones, grosso modo. Donc j'ai besoin d'avoir ces données-là. Enfin, je cours maintenant aussi à la fréquence cardiaque et à l'allure. Et donc j'ai besoin d'avoir ma montre qui me dit bah tu es à telle allure, donc ou alors bah non, ralenti, ou ça c'est l'allure que tu vas viser pour le semi, donc il faut que tu la la garde au moins pendant un kilomètre, etc. Donc, bah du coup, aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Et l'objectif à la base, c'était simplement de me dire, parce que ça fait, grosso modo, je cours depuis 2014, sauf qu'il y a des années où je commençais à courir seulement en juin et je m'arrêtais en octobre. Il y a des années où je commençais en avril et je finissais en novembre. Et avec le changement d'heure, généralement, et l'hiver et le froid, je me disais, bah je vais arrêter de courir. Donc là, je me suis dit, cet hiver, je cours, je continue à courir, et pour me motiver à courir, je vais faire le semi-marathon de Paris, comme ça, ça m'obligera à me préparer avant, et donc à continuer à courir pendant cet hiver. Et l'avantage, c'est que comme ça, j'espère ne pas avoir à repartir de zéro en avril, à la saison à laquelle généralement je recommence à courir chaque année, puisque j'aurai continué à courir pendant l'hiver, donc j'aurai pas tout perdu en cardio. Je pourrais continuer sur ma lancée et potentiellement améliorer encore mes performances. Voilà. Je fais pareil maintenant, je cours de début mars à début novembre. Bah en fait, c'est le changement d'heure. Quand tu cours le soir, moi c'est mon cas, je cours le soir, c'est plus facile de courir seulement pendant l'été le printemps, été, un peu automne, parce qu'en fait du coup bah tu cours à des horaires où il fait jour, donc c'est plus agréable. Franchement, c'est un bon moyen de se servir des nouvelles techno pour son objectif. Exactement. Et en plus, oui, du coup je pourrais enfin test longue durée. Maintenant j'ai vraiment des réflexes avec l'application Garmin, c'est à dire que je pars en entraînement, le premier chose que je fais, c'est certes voir mes résultats, etc., savoir si j'ai bien géré, et ensuite voir, ils ont une fonction qui s'appelle le prédicteur de course, qui en fonction de tes entraînements va te dire à quelle vitesse tu peux faire un 5 km, un 10 km, un semi-marathon et un marathon, à quel temps tu le fais, et donc tu vois le truc qui évolue au fur et à mesure, qui s'améliore, et donc tu dis ah bah c'est bien, allez on continue, etc., j'ai gagné 30 secondes, j'ai gagné 1 minute, j'ai gagné 2 minutes aujourd'hui sur mon semi, donc 2 minutes c'est beaucoup, mais voilà, donc tout ça c'est très cool. Et bah écoutez, il est 11h, on a beaucoup parlé de tout et de rien. Il est 11h, Paris s'éveille. Je vais aller regarder sur Twitch si vous voyez pas. Non, c'est bon. Je vais aller sur Twitch qui est en live. Je vais le faire sur mon téléphone parce que du coup, je vais voir les chaînes auxquelles je suis abonné. Qui est en live ce matin et vers qui je peux vous envoyer en raid. Alors, on a Frandroid Live qui est en live. Est-ce que je vous envoie vers Frandroid Live? Non, peut-être pas. Chaîne recommandée. Les numériques, oui, ils sont toujours pas à l'heure. Je peux même pas vous envoyer vers les numériques. J'aimerais bien vous envoyer vers les numériques un matin, mais pour ça, il faudrait qu'on live jusqu'à 11h30. Donc c'est un peu. Ah bah, chez Gotose. Voilà, chez l'ami Gotose. Et sa matinale tech. Et bah écoutez, je vais vous envoyer vers Gotose. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous rappelle que cet après-midi, c'était quoi la news par rapport. Ah oui, puisqu'on l'a pas faite. Je vous l'envoie directement dans le chat, comme ça vous pourrez l'ouvrir. C'était ça. OpenCore qui permet d'installer macOS Ventura même sur les Macs qui sont pas compatibles. Une description audio de ce qu'indique la montre pour éviter de regarder la montre trop souvent. Non. Enfin, tu peux peut-être le configurer. Je l'ai pas configuré moi, mais tu peux peut-être le faire. Après, je serais un peu saoulé que la montre me dise toutes les 5 secondes dans les horaires mon allure et ma fréquence cardiaque, mais il y a peut-être moyen de le faire, je serais pas étonné. C'est avec le vélo, quand tu prends pour des petits trajets de 4 km, 15-20 minutes, tu dis bon bah je roule un peu en vélo, même si je fais plein de trajets dans la journée, bah ma Watch 2 me dit t'as roulé 2200 km cette année. Ouais, bah pareil, moi ma montre, enfin Strava m'a indiqué que j'avais fait couru 1100 km l'an dernier. Donc c'est très motivant quand tu vois ça. Et donc écoutez, moi je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous rappelle que dans l'après-midi, comme tous les jeudis après-midi, on aura un live de Guillaume sur les meilleurs bons plans, surtout que c'est encore les soldes en ce moment, donc ce sera l'occasion de voir de bonnes affaires. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai en live, non pas jeudi, mais mercredi. Donc le jeudi, ce sera Grégoire qui sera en live, je crois. Oui, c'est ça, Grégoire qui sera en live. Et moi, je serai là mercredi matin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde, Red Gotose, et à bientôt. Et passez le bon jour de ma part à Gotose. Ciao, ciao, bye.